Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un deuxième numéro des clés pour vivre cette semaine pour intervenant spécialiste, c'est le père Benoît Domergue. Bonjour père Benoît Domergue.
Bonjour.
Alors je rappelle que vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur la nouvelle religiosité et les courants contemporains ésotériques et magiques, que vous avez animé de nombreuses rencontres internationales d'exorcistes en Italie, au Portugal et en Pologne, et de nombreuses interventions également auprès des instances politiques en Europe, Belgique, Lituanie et Pologne. Après l'horoscope et la voyance, un autre programme du jour en 10 minutes. Et vous avez bien travaillé les sujets que je vous ai proposés. Je vous en remercie, père Domergue. Un peu de magie et de sorcellerie. Mais attention, pour ne pas inviter nos auditeurs, auditrices, à pratiquer cette magie, magie blanche ou magie noire. Quels sont les dangers, et c'est la première question, père Domergue, de la magie? Et merci.
Voilà, je crois que, merci beaucoup en tout cas, là encore nous devons faire la part des choses. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle la magie prestidigitation. Votre question ne concerne pas ce registre, j'imagine, dans lequel alterne trucage et tour de passe-passe, moi j'aime bien. Et puis il y a aussi effectivement ce qu'on appelle la magie traditionnelle. Et la plus courante de ces magies, c'est une déformation d'un rite très connu, décrit dans le livre biblique du Lévitique au chapitre 16, et ça il y en a peu qui le savent. Ce rite d'expiation, qui est magnifique, au cours duquel Moïse et son frère, le prêtre Aaron, procèdent à une cérémonie d'offrande de deux boucs. L'un est sacrifié, tandis que le second endosse les péchés du peuple, comme si l'on transférait les péchés des hommes sur l'animal en question, d'où le bouc émissaire. Ce rite, c'est l'ancêtre du Yom Kippour, le jour du grand pardon en hébreu. Puis ce bouc est renvoyé dans le désert, le deuxième, si le premier est sacrifié dans le sanctuaire. Et ce deuxième bouc donc est voué à un démon qui s'appelle Azazel. Ce rite fut dévoyé et perverti au cours des âges historiques pour devenir un rite de magie noire, tout simplement parce que les sorciers qui ont détourné ce rite, exorciste au départ, l'ont transformé en rite adorciste. Je m'explique. Le rite biblique du Lévitique permet aux hommes de se purifier, on l'a dit, à travers une demande de pardon. Et ça aussi, c'est l'ancêtre de l'absolution pénitentielle. Tandis que le rite adorciste, littéralement, consiste non pas à expulser, comme dans un exorcisme, le démon, mais au contraire à l'attirer à soi. Et c'est la définition de l'adorcisme. Le premier rite est répulsif, pour dire ça comme ça, tandis que le second reconstitue une cérémonie de type attractif. Pour résumer, mais vraiment très brièvement, le rite du bouc émissaire, qui anticipe le sacrifice du Christ rédempteur, est dénaturé par le second rituel de type magique. La magie noire serait donc en quelques mots une inversion, voire une perversion, de pratiques religieuses traditionnelles comme celui qu'on vient de décrire très rapidement et trop rapidement.
Alors, quels sont les effets de ces formules magiques? Par exemple, les mantras, père Benoît Domergue, vous qui êtes un vrai spécialiste de la question.
Alors voilà, donc il ne s'agit pas d'étaler sa science qu'il faut toujours apprendre, mais dans ce domaine, je reconnais qu'il faut quand même être un peu technique. Mais je vais, sans tomber dans le simplisme, je vais expliquer. Dans une prière classique, celui qui prie s'adresse à un Dieu personnel et il entre donc dans un dialogue interpersonnel basé sur la foi. Dans la magie, les rapports sont tout à fait différents. Ils ne sont pas interpersonnels, ces rapports, mais ils s'établissent par l'intermédiaire d'un langage dit ésotérique. Ésotérikos, ça veut dire langage codé et volontairement crypté. Dans le langage courant, les paroles s'expriment à travers des mots, des verbes, bref, ce que l'on appelle tout simplement la sémantique. C'est ce qui se passe maintenant à la radio, j'espère que tout le monde se comprend. C'est ça la sémantique. Mais dans une prière religieuse...
Sinon, je me permets, les auditeurs vous écriront, père Benoît Domergue.
Exactement.
Chapelain ici à Lourdes, dans ce sanctuaire depuis 3 ans.
Voilà, merci, tout à fait. Et c'est premier dans ma vocation, bien sûr. Donc, dans une prière religieuse, je disais, ce qui est premier, bien sûr, c'est la formulation de la prière, ce qu'on appelle en linguistique le signifié, sur une base de foi, bien sûr. Et dans la magie traditionnelle, c'est pas ça du tout. Le signifié n'a pas d'importance, c'est-à-dire ce que l'on comprend. Ce qui domine dans les formules magiques, c'est d'abord l'aspect signifiant, pour reprendre une terminologie linguistique. Et donc, c'est l'aspect vibratoire des mots qui est dominant. Je donnerai un ou deux exemples. Et c'est comme cela que ces traditions païennes, dans un premier temps, ont mis au point des équivalences entre tel code et tel nom de démon. Origène, dont on parlait hier, voilà, on a fait beaucoup de ces équivalences. Dans la magie gréco-latine aussi, des mages ont développé des formules d'envoûtement avec des suites de mots en apparence incompréhensibles. je n'en citerai qu'un seul, mais qui est très connu quand même dans les milieux, Augusto Dolan, un extraordinaire épigraphiste et archéologue, membre de l'Académie des Belles-Lettres quand même, dans les années 1930, a publié plusieurs de ses équivalences de type démoniaque. Mais depuis les années de la contre-culture, les années 60, j'ai connu ça quand j'étais petit, avec l'invasion du tantrisme extrême-oriental, l'Occident a maintenant à sa disposition plusieurs listes de mantras, et je vais expliquer. Donc une formule type mantrique est donnée au cours d'une cérémonie initiatique, et celui qui est initié par un initiateur, bien sûr, est invité à utiliser soit oralement, soit mentalement telle formule, et il doit la garder secrète. Sauf qu'en regardant de près, c'est pas aussi simple. Précédemment, j'évoquais l'existence des Yoga Sutras, j'y tiens, qui enseignent donc à exercer et à dominer cette puissance magique. Et bien dans ce traité, il existe des dizaines de techniques magiques et de sortilèges. Mantra, donc en sanskrit, alors j'ai fait du sanskrit pendant des années, de l'hébreu aussi, ça veut dire donc qu'un utilisateur utilise une pensée précise. Exemple, le mantra neutre, je rassure tout le monde, donc on ne risque rien surtout à l'antenne, le mantra neutre qui est connu, Om, c'est un mot qui vibre, une consonne qui vibre, Om, avec une nasale, je vais y revenir. La plupart de ces mantras, de ces onomata barbarica en grec, ces onomatopées donc barbares, eh bien ce sont des hymnes sacrés au départ, des formules magiques. Elles sont généralement incompréhensibles, je le disais tout de suite, mais il existe des tables d'équivalence, alors que j'ai beaucoup étudié, et qui traduisent presque toujours ces noms codés en vocables démoniaques, hélas. Et ces pratiques sont très connues dans les ordres Rose-Croix, par exemple, chez les Rosicruciens, ou dans les derniers degrés de la maçonnerie spéculative. Et la grande majorité de ces évocations contiennent des lettres nasales, je le disais, comme le M qui peut donc résonner ou le N. Et donc en sanskrit, ces lettres nasales sont affectées d'un point, d'une ponctuation. Et ce point symbolise, tenez-vous bien, donc l'étoile polaire, c'est l'axis mundi, l'axe du monde. Mais tout cela, ce sont des représentations donc symboliques aussi de démonologie. En translittération, donc c'est le M pointé en dessous et le N pointé en dessous. Cela signifie que, par exemple, la prononciation demeure quelques secondes comme une cloche qui résonne. Un exemple, Hing, avec donc une résonance. C'est un peu le point d'orgue dans la musique, hein, qui fait qu'une note est prolongée. Donc cette vibration, je récapitule, elle affecte le cerveau reptilien. Et la résonance d'ordre psychophysiologique devient une évocation de type adorciste, je le disais tout de suite. Et donc par cette pratique, là on n'est plus dans le registre de la prière. Il y a un glissement d'un domaine psychologique à celui plus intime et qui touche le domaine spirituel. Et c'est là la question. Et ces puissances sont en lien, encore avec un grand mot, avec la puissance qu'on appelle de la Kundalini. Je dis ça parce que même dans nos départements, comme ici dans les Hautes-Pyrénées ou dans les Pyrénées-Atlantiques, eh bien en gros il y a une dizaine ou une douzaine de ces centres qui enseignent donc à pratiquer la Kundalini. Donc on est dans le vif du sujet. Kundalini, kunda, donc en sanskrit, c'est ce qui est lové, mais comme un serpent dressé. Et c'est ça la question. Et le Kaushika Sutra, un autre traité qu'on a beaucoup étudié pendant 2 ans, avec M. Charles Malamou en hautes études, j'y reviendrai, eh bien, on enseigne tout ça et on dit bien que dans ce traité de magie noire, donc traditionnellement hindou, hein, dans ce traité, on décrit cette puissance de toutes les façons possibles et on dit bien que, pour ne dire ça comme ça, dans cette magie, il y a vraiment comme un enfermement. Et dans le mot abhichara, donc en sanskrit, il y a cette idée d'enfermement. Vous savez que dans les langues anciennes, le fond et la forme se correspondent. Et par exemple, dans le mot amphithéâtre, ça n'a rien à voir avec la magie, mais dans amphi, il y a un enfermement, un cercle, c'est l'idée même dans le mot abhichara. Je donne juste un exemple, alors je parlais des séries, mais Game of Thrones, par exemple, sixième saison, il y a un retour à la vie, bon, c'est de la fiction, hein, d'un héros qui s'appelle Jon Snow, on n'y reviendra pas, et donc il y a des évocations de type spirit formulées par la sorcière Mélisandre. Alors, je les ai notées, donc c'est « Hen sidroro onos », En Nukir Persis, En Morgoth Gleison. Alors, ça veut rien dire, on est d'accord, mais c'est une langue reconstruite par le scénariste de Game of Thrones, mais il a quand même emprunté ses sonorités à 2 personnes, plus spécialement à des sonorités scandinaves, sinon un écrivain que j'admire beaucoup, qui s'appelle Tolkien, très connu, et qui, lui, a mis au point donc le terme de Morgoth, qui est un personnage mythologique, seigneur des ténèbres. Bref.
Alors, merci pour toutes ces réponses, explications très précises, et vous avez travaillé, et puis c'est votre sujet, vous, père Benoît Domergue. Quelles en sont les conséquences? Suis-je réellement en danger? Ça, c'est une question importante pour ceux et celles qui vous écoutent, hein, et qui sont certainement très attentif. Attention, vous êtes chapelain depuis 3 ans ici, vous risquez de recevoir des courriers, Père Domergue.
Bah écoutez, nous verrons bien, en tout cas, merci. Bah, les conséquences sont multiples, mais quand on est un initié pratique pendant des années de ce type d'esprit magique, il est préférable qu'il rencontre un exorciste habilité. Je rappelle que dans un diocèse, celui qui est exorciste, c'est l'évêque de tel diocèse, mais il est vrai que la plupart du temps, l'évêque nomme un prêtre chargé de recevoir des fidèles susceptibles de recevoir un exorcisme. Alors attention, quand on va voir, pardon, mais n'importe quel exorciste. Cependant, une prière d'intercession, c'est bien vrai, une prière de délivrance peuvent suffire à délivrer quelqu'un. Je voudrais quand même citer Jacques Maritain qui dit une chose très forte à ce sujet. Les blessures du péché originel ont moins de force pour détériorer notre nature humaine que les blessures du Christ en croix. Donc ces blessures qui nous élèvent à la grâce et à l'amitié avec le Dieu qui sauve.
Une très belle citation de Jacques Maritain. Alors, quels sont les moyens, Père Domergue, pour couper tout lien avec la magie ? Se tourner vers un exorciste ?
Se tourner vers un exorciste, nous venons d'en parler très brièvement. Pour être plus précis aussi, je dirais que, par expérience, celui qui reçoit quelqu'un qui pratique la magie noire, ou parce qu'il en est victime, ce qui n'est pas la même chose, on est bien d'accord, eh bien nous découvrons alors des personnes qui veulent des réponses concrètes et libérantes, ça c'est important. Il arrive, et aujourd'hui c'est fréquent, que tel pratiquant de magie noire, voire de magie noire, donc ce qui est plus grave, que la magie tout court, se pose de très graves questions existentielles. Pourquoi ? Bien parce que le monde aujourd'hui est très contrasté, et surtout très désillusionné. Alors, ce n'est pas le lieu de l'expliquer, mais surtout nous constatons, par exemple dans le sanctuaire de Lourdes, que beaucoup de personnes sont assoiffées de vérité, ça c'est vrai. Beaucoup de gens recherchent une raison d'être à travers par exemple des traditions New Age, des pratiques extrêmement orientales de méditation et qui finalement sont revenues de tout. Alors il faut les recevoir comme ils sont. Et après on peut reprendre peu à peu une espèce de rééducation, passez-moi l'expression, donc dans les présupposés philosophiques.
Alors merci, vous avez répondu très précisément sur ce sujet du jour, sur ce domaine de la magie, de la sorcellerie. Si on souhaite prendre contact avec vous, Père Benoît Domergue, on vous adresse un courrier ici, dans ce sanctuaire de Lourdes ?
Oui, tout à fait. Oui.
Très bien. Alors, je vous garde jusqu'à la fin de la semaine et je vous propose de vous retrouver demain dans cette même émission. À la même heure, un autre volet aussi important et vous serez, je l'imagine, encore très précis, le spiritisme. Rendez-vous demain. Au revoir.
Au revoir, madame.